sont les trois sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, deuxième conférence du 10 septembre 1994.
révélation reçue dans la foi ne nous donne aucun nouveau concept, mais nous donne un nouveau jugement. Ça, c'est très intéressant, du reste, comme analyse. Mais voyez, tout de suite, on va dire, saint Thomas fait ses distinctions grâce à une philosophie qu'il utilise. Le concept, l'appréhension et le jugement. Et je distingue appréhension et jugement. Et ceci relève d'une philosophie aristotélicienne. Alors, on dirait, c'est pas étonnant que saint Thomas justifie. Et quand vous justifiez la nécessité de la théologie, parce que cette théologie existe. Donc, principe. Vous nécessitez la théologie. Elle existe. Donc la théologie se justifie. Mais c'est pas une justification absolue. Elle existe. Pourquoi existe-t-elle? Alors, à ce moment-là, je dois comprendre qu'elle existe parce que Dieu se sert de la parole humaine. Si Dieu se sert de la parole humaine, j'ai donc capacité de mon intelligence pour comprendre. J'ai la capacité de mon intelligence pour comprendre cette parole humaine. Mais je ne m'arrête pas à la signification de cette parole humaine. Si je suis croyant, me servant de la signification de cette parole humaine, j'adhère au mystère révélé par Dieu. Là, je me sers absolument pas d'une philosophie ou d'une théologie déjà existante. Je regarde tout simplement le fait Dieu dit à Abraham. C'est le premier moment où on parle de la foi. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta maison, va vers une terre promise, va vers la terre que je t'indiquerai. C'est très net. Dieu dit. Qu'est-ce qu'Abraham a compris ? Dieu lui a parlé une langue qu'Abraham connaissait, sa langue maternelle. Et Dieu a donné un ordre à Abraham. Cette parole est une parole divine, efficace, qui réalise dans le cœur d'Abraham ce qu'elle signifie. Vous voyez, le passage, c'est ça qui est le mystère. Il ne faut pas l'oublier. La foi est un mystère et la parole de Dieu est un mystère. Donc, je ne peux intelligence positiviste, une intelligence abîmée par une attitude qui n'est plus la recherche de la vérité, mais qui est un repliement sur soi. L'habitus de foi, la vertu de foi qui est reçue dans cette intelligence, ne pourra plus s'exercer avec autant d'aisance, autant de plénitude. Ce sera bien un acte de foi puisque je veux croire. Mais il n'y aura plus le concours de l'intelligence. L'intelligence sera là uniquement pour permettre l'acte de foi. Mais l'intelligence en elle-même, mon intelligence abîmée par cette habitude viciée qui n'est plus la recherche de la vérité, mais qui est tout simplement un repliement de l'intelligence sur elle-même, comme dans tout idéalisme. L'acte de foi sera gêné par le poids de cette intelligence viciée. Voyez, quand ce philosophe récent, Clavel, qui a eu une difficulté énorme, il le dit lui-même, à entrer dans Kant pour l'agrégation, il est tellement entré dans Kant qu'il a dit « Je n'en sortirai plus jamais. » Là-dessus, il se convertit. Normalement, la foi devrait lui donner un sens d'un réalisme que Kant voilait et que la philosophie de Kant voilait. Puisque pour la philosophie de Kant, il n'y a pas de jugement d'existence. C'est impossible. Il y a une idée de l'être, et puis c'est tout. Et une idée formelle de l'être. Il n'y a pas d'expérience de ce qui est en tant qu'il est. Je n'atteins que le devenir. Et j'ai une idée de l'être. Ce cerveau marqué, cette intelligence marquée par la philosophie kantienne, fait que la lumière de la foi reçue dans cette intelligence qui se dit kantienne et qui se veut kantienne avant sa conversion, après sa conversion, fait que fatalement cette volonté de rester disciple de Kant tout en recevant la lumière divine de la foi fera que la foi ne sera pas capable d'assumer la philosophie kantienne. La vérité n'assume pas l'erreur. Alors, ce sera comme un frein constant. Ce qui exigera une sorte de volonté beaucoup plus forte de dire je veux croire. Il y aurait d'une part cette volonté de croire et d'autre part ma philosophie kantienne. Il y aura un dualisme. Ça ne peut pas être autrement. C'est la même chose. Ça peut exister pour Kant parce que Kant ne refuse pas l'existence de Dieu. Et que Foucault est fidéiste, alors ça peut aller, ça grince, mais c'est pas impossible. Si j'étais marxiste, en disant Dieu n'existe pas, la lumière de foi reçue par Dieu gratuitement ferait que je dois convertir mon intelligence du marxisme à une intelligence niveau philosophique. Si je suis croyant, je connais les deux niveaux. Si je ne suis pas croyant, ben, je n'arrive que ce niveau-là. J'ai un de mes amis qui, pendant de longues années, étant philosophe, mais n'étant pas croyant, lisait constamment la Bible, en me disant c'est le plus grand livre que j'ai lu de ma vie. Mais il le lisait en philosophe. Et il constatait des contradictions dans la Bible. Contradictions apparentes pour nous, pour le point de vue philosophique, qui semblaient des contradictions. C'est comme cela qu'est née la théologie. La théologie est née, c'est des pères de l'Église qui l'expliquent comme ça, et je trouve que c'est une très belle explication. Qu'on a vu des passages de l'Écriture qui semblaient contradictoires. Il fallait montrer qu'ils ne l'étaient pas en tant que croyants et qu'ils ne pouvaient pas l'être. Je prends dans l'Évangile, Jésus dit, quand on t'envoie une gifle sur la joue droite, tu dois présenter la joue gauche. Hein? Quand Jésus est en face des grands prêtres et qu'il répond aux grands prêtres et que sa réponse est une réponse de vérité, le corps. en face de Nicodème, nous montre ce que c'est que la théologie. C'est admirable. La théologie, c'est pas l'Église qui l'a inventée, c'est Jésus. Il l'a inventée pour que Nicodème devienne plus intelligent. Pour que Nicodème ne reste pas bloqué sur une parole qu'il ne comprend pas. C'est jamais très intelligent de rester bloqué devant une parole qu'on ne comprend pas. On peut la répéter indéfiniment, elle ne sera pas plus intelligente. Il faut prendre un petit peu de longueur, d'espace, de séparation, et puis distinguer. Et comparer. Toute la théologie de saint Thomas, c'est distinguer et comparer. Une fois que vous avez ça, vous avez tout compris. C'est pour que pénétrer dans la parole de Dieu et que montrer qu'il n'y a pas de contradiction, mais qu'il y a des niveaux différents pour saisir cette parole de Dieu. Vous voyez, c'est la parole de Dieu elle-même reçue dans un homme croyant, intelligent et croyant, qui veut aller jusqu'au bout de la signification de la parole de Dieu, et qui veut montrer où est le mystère, et tout ce qui entoure le mystère, qui n'est pas le mystère. Ce qui entoure le mystère et qui n'est pas le mystère, c'est la parole humaine. C'est la parole humaine dite par tel individu, dans tel milieu, à tel moment. Tout ça, c'est ce qui enveloppe la parole humaine. Catherine de Sienne dirait que la parole de Dieu qu'on doit avaler, comme une noix verte. Vous avez fait cette expérience quand vous étiez gosse, hein, et que vous voyez tomber par terre une noix verte, et on dit c'est une noix, c'est pour manger. Alors on prend à pleines dents cette noix verte. C'est excellent. Hein. Si la mère, elle a dit, mais non, c'est pas ça. Alors vous enlevez, puis vous trouvez quelque chose de dur. Vous essayez encore de casser, vous cassez vos dents plutôt que de casser les gosses, parce qu'elle est dure. Alors on vous montre quand. Les dents. Mais la le coup de lance. Je compare le coup de lance au cri de soif. Il y a un geste et une parole. Or, l'homme communique par la parole et par le geste. Y a des des bons chrétiens qui acceptent de ne rien comprendre. Je crois. Ça m'est égal, je comprends rien. Je me souviens du premier cours de théologie que j'ai fait à Fribourg, qui était en dehors de l'université. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit « J'aime mieux plus venir. » Parce que vous nous faites réfléchir. Moi, j'aime mieux croire tout simplement sans réfléchir. Je dis « Vous avez de la chance. » Et si vous êtes quelqu'un qui vous pose des questions, qu'est-ce que vous allez faire ? Ah, j'affirmerai la foi. Puis je dirai, j'ai le privilège de la foi, moi. Je l'affirme. Vous n'y comprenez rien, tant pis, allez-y, vous allez en enfer. C'est une charité remarquable. Parce que vous devez aimer le prochain comme vous vous aimez vous-même. Donc vous l'allez au ciel, le prochain, menez-le au ciel, qu'il comprenne. Je comprends très bien. Si on n'a pas d'intelligence pour lire la parole de Dieu, au service de la foi, il y a des tas de choses dans l'Ancien Testament qui scandaliseront. Oh, quand même, est-ce que je dois suivre l'Ancien Testament? Est-ce que je dois